Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Bel âge et ça m'intéresse. Au programme, comment choisir son téléphone intelligent? Comment réussir ses photos avec son téléphone? Et les 20 grandes énigmes de l'histoire. Bonne écoute.
Comment choisir son téléphone intelligent, un texte de Pascal Forget, paru dans Bel Âge. Acheter un téléphone intelligent est plus facile qu'on le croit, même quand on ne suit pas de près les toutes dernières avancées de la technologie. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire de choisir le modèle le plus cher ou le plus sophistiqué pour en profiter. L'important est de trouver celui qui nous permettra de rester en contact avec nos proches, tant par la voix que par messagerie texte, courriel, vidéo ou même sur Facebook. Une fois ces fonctions de base remplies, il sera toujours temps de découvrir ces fonctions plus avancées et autres applications ludiques. Cela dit, quels devraient être nos critères de sélection? La facilité d'utilisation. L'iPhone d'Apple est réputé pour sa simplicité, spécialement pour les utilisateurs d'ordinateurs Mac et de tablettes iPad. Le fonctionnement est le même. Si la plupart de vos proches en ont un, il peut être tentant de les imiter, ne serait-ce que pour la possibilité d'échanger avec eux par FaceTime, ces communications vidéo très faciles. Un gros bémol, toutefois, il est plutôt coûteux, surtout si on s'offre le dernier modèle. Les téléphones de type Android, offerts par différents manufacturiers dans un vaste éventail de prix, permettent quant à eux de personnaliser l'interface à son goût pour afficher la météo sur l'écran d'accueil, par exemple. Trop compliqué? On peut aussi activer un menu d'accueil simplifié dans les préférences sous « Menu d'accueil ». Les icônes deviennent alors plus grosses et seules les options de base sont proposées. Une excellente façon de s'initier. La prise en main. Autre élément important, le téléphone devrait être agréable à tenir en main, ni trop volumineux, ni trop petit, ni trop lourd. Il ne doit pas non plus nous donner l'impression qu'il glisse facilement des mains. Dans ce cas, un étui en silicone pourrait se révéler fort utile. Les modèles Android, par exemple, sont offerts en plusieurs formats. Or, un téléphone avec un écran plus grand évite de plisser les yeux pour voir et pourra, dans bien des cas, faire aussi office de tablette. Le clavier. Les téléphones intelligents ont des écrans tactiles, on touche l'écran pour écrire ou composer un numéro. Cela dit, même si les téléphones à touche ne sont plus aussi populaires, il en existe toujours de tout aussi performants si on trouve ce type de clavier plus agréable. Certains modèles BlackBerry ont même des mini-claviers avec une touche par lettre. La caméra. La fonction appareil photo peut sembler secondaire à première vue, mais on y prend vite goût. On s'en sert autant pour immortaliser de beaux moments que pour faire des appels vidéo à des proches qui ne vivent pas à proximité. Petit truc de pro, le flash de l'appareil se révèle aussi très pratique comme lampe de poche. Le volume. Pour s'assurer de toujours bien entendre, quand on nous appelle, on vérifie si le volume du téléphone est suffisamment élevé avant de l'acheter, tant en le portant à l'oreille qu'en mode main libre au parleur. À noter que certains appareils, dont le Doro 824, sont même compatibles avec les appareils auditifs. Le forfait. Aucun téléphone n'est vraiment gratuit, quoi qu'en disent les publicités. Son prix est alors simplement inclus dans le forfait choisi. Et si vous décidez de changer de fournisseur avant la fin de votre engagement, vous devrez régler le solde impayé. On préfère la liberté d'un forfait à la carte, sans engagement. En payant notre téléphone en entier, on pourra changer de fournisseur à notre guise, en fonction de nos besoins, si on veut ajouter un forfait de données plus généreux à un moment donné, par exemple. C'était « Comment choisir son téléphone intelligent », un texte de Pascal Forget, paru dans Bel Âge.
Comment réussir ses photos avec son téléphone? Un texte de Pascal Forget, paru dans Bel Âge. Compact et léger, toujours avec soi, le téléphone intelligent remplace de plus en plus l'appareil photo. Voici les meilleures astuces de pro pour prendre des clichés superbes avec son cellulaire ou sa tablette. On éclaire. En règle générale, plus il y a de la lumière, plus les photos seront belles. Activer le flash peut aider, mais cela risque aussi de rendre l'image moins naturelle. Mieux vaut donc allumer les lumières. Pour les photos de groupe, on s'assure que tout le monde est éclairé de façon uniforme. On évite le soleil trop intense du midi, peu flatteur, au profit de la lumière douce de début et de fin de journée. On pense à la règle des tiers. Pourquoi toujours placer notre sujet au centre de la photo? L'option offerte d'afficher une grille dans l'écran permet d'appliquer la règle des tiers, bien connue des photographes. On imagine un tic-tac-toe dans l'image et on place notre sujet à l'une des intersections. Dynamisation garantie. On utilise la caméra principale. Prendre des selfies à bout de bras n'est pas l'idéal pour des portraits. La caméra qui nous fait face est généralement de qualité inférieure à celle de la caméra principale, au dos du téléphone, à l'exception du iPhone X. Ses capteurs de profondeur analysent et traitent l'image pour des portraits spectaculaires. On demande donc plutôt à quelqu'un de nous photographier. On s'approche. Si on zoome avec son téléphone ou sa tablette, on utilise un zoom électronique. L'image sera agrandie artificiellement. Le résultat semblera acceptable sur ce petit écran, mais il risque de se révéler décevant, affiché en grand à l'ordinateur ou une fois imprimé. Mieux vaut donc s'approcher le plus possible pour prendre la photo désirée. Certains appareils ont toutefois un second objectif avec un vrai zoom. Dans ce cas, on en profite. On mitraille. Maintenir son doigt sur le bouton active en général le mode « rafale » qui permet de prendre plusieurs clichés rapidement. Parfait pour immortaliser des groupes ou des enfants. On choisira ensuite la plus belle, celle où tout le monde sourit. On explore les modes. Pour faciliter la prise de photo, l'appareil photo de votre téléphone est réglé en mode automatique par défaut, peu importe les conditions. Or, il existe aussi d'autres modes, dont portrait, comme son nom l'indique pour les portraits, et panoramique, combinant plusieurs photos pour de beaux paysages. Si on maîtrise les bases de la photographie, le mode avancé ou pro permet même de retrouver le contrôle manuel de l'exposition, de la sensibilité et de l'ouverture, comme avec un vrai appareil. On retouche. Une photo nous plaît beaucoup, mais un petit détail cloche. L'application gratuite Snapseed permet d'apporter des corrections et de faire des retouches à même son cellulaire. Avec l'option correction, on peut ajuster l'éclairage pour faire ressortir des détails, recadrer la photo sur le sujet, éliminer une miette ou une petite tache sur un chandail. Attention toutefois, abuser des retouches enlève parfois beaucoup de naturel à l'image. On sauvegarde et on partage. On a pris de belles photos? Autant les envoyer alors via les réseaux sociaux ou par courriel à ses proches et surtout à ceux qu'on a photographiés. Partager ces photos, c'est une belle façon de revivre les bons moments. C'était « Comment réussir ses photos avec son téléphone », un texte de Pascal Forget paru dans Bel Âge.
Les 20 grandes énigmes de l'histoire. Un texte de Cyril Azouvi et Thierry Lacour, paru en janvier 2023 dans le magazine « Ça m'intéresse », le numéro 503. Il est des questions qui continuent de tarauder historiens et amateurs. Où est la chambre funéraire de Khéops? À quoi servaient les alignements de Karnak? Ça m'intéresse fait le point sur ces mystères non résolus. Connaîtra-t-on un jour l'identité des véritables auteurs de l'assassinat de John Kennedy? L'ouverture des dernières archives fédérales américaines est en effet un vrai serpent de mer. Une partie d'entre elles a été rendue publique en 1992, le reste devait l'être en 2017. Mais c'était compté sans Donald Trump, qui en a bloqué l'accès jusqu'en octobre 2021. Si son successeur à la Maison-Blanche, Joe Biden, a bien déclassifié quelques 1500 documents, il en a retenu 14 000. La résolution de l'un des plus épineux dossiers du XXe siècle n'est pas pour demain. L'histoire est truffée de ces énigmes sur lesquelles s'épuisent les spécialistes. Pour les plus récentes, la clé n'est probablement qu'une question de volonté politique, le décès de Kennedy, de progrès des techniques, l'étrange signal « wow » page 39, voire tout simplement de temps, la disparition du vol MH370 page 36. Mais plus on s'éloigne de l'époque contemporaine, plus les mystères s'épaississent. Les civilisations disparues n'ont, hélas, pas toujours pris soin de laisser des modes d'emploi de leur langue ou de leurs mœurs avant de s'éteindre. C'est le cas du peuple Rapa Nui, qui vivait sur l'île de Pâques et a emporté avec lui le secret de son écriture « Rongo Rongo », page 34. C'est également celui de nos très lointains ancêtres préhistoriques. Ils ont laissé sur les parois de leur grotte de splendides figures énigmatiques et nous n'aurons vraisemblablement jamais le fin mot de l'histoire. Trouver les trésors et les tombeaux cachés. Perdus au fil des siècles, ou sciemment dissimulés, des sites funéraires mythiques et de fabuleuses richesses captivent les archéologues depuis des générations. Localisera-t-on un jour le tombeau de Gengis Khan? Le fondateur de l'Empire mongol, Gengis Khan, est mort en 1227, au cours d'une grande bataille dans le nord de la Chine. Mais ses descendants ont effacé toute trace de sa sépulture. Son emplacement demeure secret, malgré les nombreuses tentatives d'archéologues du monde entier pour le localiser. Les recherches les plus récentes se sont concentrées sur le massif Burkhan Khaldun, au nord-est de la Mongolie, où Gengis Khan aurait passé son enfance. Dans les années 1990, une importante expédition japonaise y échoue de peu, se heurtant à la résistance de la population et des autorités. En 2015, l'analyse d'images satellitaires dans la zone permet à l'ingénieur et explorateur américain Albert Yu-Min Lin, de repérer 55 sites archéologiques, dont l'un d'eux pourrait être le tombeau du conquérant mongol. Seul le scientifique français Pierre-Henri Giscard est convaincu d'avoir trouvé le lieu précis de la sépulture. Au terme de deux expéditions, menées en 2014 et 2015 dans le même massif montagneux et grâce à l'emploi de drones, l'équipe de l'archéologue a localisé un dôme de pierre et de terre artificielle long de 250 mètres et haut de 40 mètres. Mais, comme les autorités mongoles interdisent toujours les fouilles du lieu, les preuves formelles manquent. Pierre-Henri Giscard le reconnaît, il est possible qu'il s'agisse d'un mémorial élevé en son honneur dès le Moyen Âge et que la dépouille de l'empereur se trouve ailleurs. 2. A-t-on repéré les mines du roi Salomon? Dans la Bible, le livre relatant le règne du roi d'Israël fait mention d'énormes quantités d'or et d'argent nécessaires pour construire et orner le premier temple juif à Jérusalem. Cependant, d'après les historiens, ces richesses proviendraient de mines de cuivre. Des datations au carbone 14 ont prouvé que deux anciens gisements de ce métal situés au Moyen-Orient étaient en activité au Xe siècle avant Jésus-Christ, lorsque Salomon régnait. Le premier se trouve à Kirbet en Ahas, dans le sud de la Jordanie, et le second dans la vallée de Timna, en Israël. Les fouilles n'ont pas encore déterminé quelle mine aurait été exploitée par le souverain. 3. Où se situe la chambre funéraire de Khéops? Quelques 4500 ans après sa construction, la grande pyramide de Gizeh, Égypte, l'une des sept merveilles du monde antique, garde toujours secret le lieu précis de la chambre funéraire du pharaon Khéops. Lancé en 2022, un programme baptisé « Explore the Great Pyramid » vise à mieux cerner cet édifice grâce à la tomographie muonique. Cette technologie de pointe utilise les muons, sorte de cousins des électrons, pour créer une image en projection d'un volume cible. Elle a déjà permis en 2017 de repérer une cavité d'environ 30 mètres de long et 6 de haut. Mais selon l'archéologue qui supervise l'étude des pyramides, il ne s'agissait pas d'une découverte majeure. Cette fois, les instruments de mesure sont 100 fois plus sensibles, ce qui permettra d'obtenir un schéma précis avec peut-être une mise en relief des artefacts contenus dans la chambre cachée. Le projet a été validé par le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités, mais l'équipement très coûteux n'est pas encore en service. Les travaux devraient durer plusieurs années. Vous écoutez les 20 grandes énigmes de l'histoire, un texte de Cyril Azouvi et Thierry Lacour, paru en janvier 2023 dans le magazine « Ça m'intéresse », le numéro 503. 4. Où se cache le trésor des Incas? Capturé par Francisco Pizarro en 1533, l'empereur Inca Atahualpa fait un pacte avec le conquistador, sa libération contre une rançon colossale. Il envoie des émissaires dans tout l'Empire, mais alors que les premiers convois arrivent chargés d'or et d'argent, il est tout de même exécuté. Lorsque le chef Inca, Rumina Uy, apprend la mort du fils du soleil, il fait demi-tour et dissimule les objets précieux qu'il transporte. Depuis, nombre d'aventuriers ou archéologues ont tenté de mettre la main sur ce trésor. Leurs sources, des manuscrits, des archives religieuses et surtout un mystérieux document. Le Derrotero de Valverde. Cet itinéraire, dont il existe plusieurs versions, a été tracé au XVIe siècle par un déserteur espagnol nommé Valverde. L'ex-soldat aurait appris la cachette du butin après son mariage avec la fille d'un chef Puruay, des Indiens vivant au pied du massif escarpé des Langanates, dans l'Équateur actuel. Cette région est connue pour ses nombreux lacs et grottes. Autant chercher une aiguille dans une meule de foin. 5. Qu'est devenu l'or nazi? Entre 1933 et 1941, l'Allemagne fait main basse sur les biens des pays qu'elle conquiert, ce qui représente une immense fortune. Une partie sert à financer la guerre, une autre est transférée dans des banques ou envoyée à l'étranger. Le reste aurait été mis à l'abri en 1945, dans la précipitation de la débâcle. Si certaines caches ont été découvertes, tout n'a sans doute pas été retrouvé. en mai 2022. La Silesian Bridge Foundation, une organisation germano-polonaise, a déclaré avoir mis la main sur le journal d'un dirigeant SS énumérant 11 sites où seraient dissimulées des richesses. Le groupe mène actuellement des fouilles à Minkowski, en Pologne, dans le sous-sol d'un palais du 18e siècle transformé en maison close pour les officiers SS. Un gros baril susceptible de contenir des objets de valeur aurait été repéré, mais son extraction se fait attendre car il pourrait être piégé. 6. Que signifient les géoglyphes de Nazca? Tracés sur le sol sablonneux de la province désertique de Nazca, dans le sud du Pérou, ces gigantesques figures ne cessent d'intriguer la communauté scientifique. Depuis leur découverte en 1926 par un archéologue péruvien, deux hypothèses dominantes ont été émises quant à leur signification. On a d'abord attribué à ces lignes une finalité astronomique et calendaire. Puis, à partir des années 1970, la théorie du culte chamanique s'est imposée. Ces figures auraient été suivies, tel un chemin lors de processions rituelles liées au culte de l'eau. Certains chamans, étant liés à des animaux totémiques, cela expliquerait les figures zoomorphiques telles que le singe, le jaguar ou le colibri. La mise au jour des vestiges d'autels sous des tumulus placés à l'extrémité de certains tracés, accompagnés de restes d'offrandes, poteries, plantes, confortent cette hypothèse. Par ailleurs, la découverte récente de nouvelles représentations, grâce aux technologies de détection aérienne, prouve que les géoglyphes n'ont pas été créés par la seule civilisation Nazca qui se développa entre 300 avant Jésus-Christ et 800 de notre ère, mais déjà par leurs prédécesseurs, les Paracas. Fait troublant, alors que la plupart des tracés de Nazca ne sont visibles que du ciel, ceux des Paracas ont été gravés à flanc de coteau. Ils peuvent donc être vus depuis la Terre. Enfin, rien ne révèle encore pourquoi les figures des Paracas représentent le plus souvent des hommes et pas celles des Nazca. Les géoglyphes péruviens sont loin d'avoir livré tous leurs secrets. 7. Que raconte le disque de Phaïstos? En Crète, le musée d'Héraclion conserve une galette d'argile découverte en 1908 sous le plancher d'un palais minoan construit vers moins 1700 et situé à Phaïstos dans le sud de l'île. Sur ce disque de 16,5 cm de diamètre et de 1 cm d'épaisseur sont gravés 241 signes hiéroglyphiques répartis en spirale. Témoignage d'une langue que personne n'a pu identifier ou déchiffrer, il fait l'objet d'un intense débat chez les linguistes et les historiens. S'agit-il d'une prière à une déesse mère, d'un calendrier, d'un rituel de guérison, d'une relique, d'un dialecte crétois disparu? Le fait qu'il s'agisse d'un unicum, un exemplaire unique connu d'un objet archéologique, et qu'il n'ait jamais été précisément daté, soulève aussi la question de son authenticité. En prime, les symboles semblent avoir été estampés par des sceaux ou des tampons métalliques mobiles. Un procédé utilisé sur aucun autre support à l'époque et devançant l'apparition de l'imprimerie en Europe au 15e siècle. 8. Qui comprendra l'écriture de l'île de Pâques? En 1869, Monseigneur Tepano Jossen, évêque de Tahiti, reçoit en cadeau une pièce de bois gravée de dessins mystérieux. Aussitôt, il se met en quête d'autres inscriptions et sauve sans doute les ultimes témoignages du Rongo-Rongo. L'écriture pasquane, laquelle reste à ce jour un mystère complet. Les scientifiques butent sur deux difficultés. Le très petit nombre d'objets, 26 seulement, portant des signes rongo-rongo et l'absence d'inscriptions bilingues qui permettraient de comparer ce système graphique avec un autre. 9. Le manuscrit de Voynich a-t-il été décodé? Le mystère plane toujours sur ce livre ancien rédigé dans une langue inconnue. C'est en 1912 qu'un antiquaire et bibliophile polonais nommé Wilfried Voynich le découvre dans la bibliothèque d'une communauté de jésuites à Frascati, près de Rome, Italie. Aucun cryptologue n'est parvenu à déchiffrer ce texte composé à partir d'une trentaine de signes. La nature de l'ouvrage, illustrée par de multiples dessins de plantes inconnues, de châteaux et de dragons, de symboles astrologiques et de silhouettes nues, est aussi une énigme. Pour certains, c'est un traité de botanique. Pour d'autres, un livre d'alchimie, voire une œuvre ésotérique. Et s'il s'agissait tout simplement d'une mystification, d'un charabia dénué de sens vendu par un opportuniste à un mécène riche et crédule. Seule certitude, grâce à une datation au carbone 14, on sait que ces pages en vélin ont été fabriquées au début du 15e siècle. En 2016, deux informaticiens canadiens ont avancé l'idée que 80% des textes étaient écrits en hébreu. Mais cela ne permet pas pour autant de décoder tout le manuscrit qui reste l'un des plus grands mystères de la cryptologie.
Pour entendre la suite du texte « Les 20 grandes énigmes de l'histoire », veuillez rester à l'écoute puisque « On lit pour vous » continue après la pause. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.musevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche, Jocelyne Angevin et Gilbert Lepage à la lecture, André Lebeau et Anne Hébert à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.